Comme tous les troisièmes jeudis du mois, nous retrouvons sur notre antenne de Fréquence Mistradine l'émission Histoire d'Archives. Bonjour Laure, Madame Laure Franek est directrice adjointe aux archives départementales des Alpes de Haute-Provence à Digne-les-Bains. Bonjour Laure.
Bonjour Jean-Marc.
Vous n'êtes pas venue toute seule aujourd'hui, vous êtes venue avec deux stagiaires avec vous.
Tout à fait, sur ma droite, un peu pétrifié, terrorisé Lou, stagiaire de troisième du Collège Gassendi.
Bonjour Lou.
Bonjour.
Et sur ma gauche, Julie, qui est en troisième année d'histoire à l'université d'Angers.
Bonjour.
D'Angers.
D'Angers, oui. Ah, elles sont toutes les deux, elle est de Riez, hein, mais elle est elle s'est expatriée pour suivre ses études.
La douceur angevine est dans nos studios. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un manosquin célèbre.
Tout à fait.
De Jean Giono.
Oui, Jean Giono. Alors pourquoi parler de Jean Giono aujourd'hui tout particulièrement ? Parce qu'il va y avoir une grande exposition qui va être préparée, qui va être inaugurée au MUCEM, hein, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, en octobre 2019, à l'occasion du cinquantenaire du décès de Jean Giono. Et ça a été l'occasion pour nous de nous replonger dans notre fonds, car nous avons un fonds qui est quand même relativement important, 38 boîtes de correspondances données par Jean Giono lui-même en 1965. Soit 5 ans avant son décès. C'est lui-même qui nous a remis ses correspondances. Alors, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de la correspondance passive. Ce sont uniquement des lettres qu'il a reçues. Il n'y a pas toutes les lettres. C'est-à-dire que c'est vraiment des lettres qui résument un petit peu son statut d'écrivain, ses relations avec les auteurs de l'époque, mais aussi les sollicitations auxquelles il devait faire face. De tous ordres. Alors on a aussi bien parfois des correspondances avec son fournisseur de rosier que des gens qui... Oui, non, mais c'est des archives. Donc il n'y a pas de tri. Je pense qu'il y a un tri, forcément. Il a fait un tri. On n'a pas la correspondance très intime, par exemple.
Il avait quoi comme rosier en...
Alors je ne sais pas, mais ce fournisseur chez Villemorin. Voilà, mais je n'ai pas retenu le nom du... Il faut savoir qu'il y a quand même 38 boîtes. Donc on en parle aujourd'hui parce que j'ai profité d'avoir avec moi les deux stagiaires pour... replonger dans ce fond qui nous pose un petit problème, entre guillemets, on va dire. C'est un fond qui mériterait qu'il soit classé, ce qu'on appelle aussi dans notre jargon, pièce à pièce, hein, c'est-à-dire que absolument toutes les lettres soient numérotées et qu'on détermine qui a expédié ces lettres, sachant qu'il y a quand même des signatures célèbres. On a du courrier de Fernandel, des lettres de Louis Buñuel, enfin un télégramme de Buñuel. Je pourrais aller. Ça sert à rien de faire la liste de tous les correspondants de Jean Giono, mais c'était quelqu'un qui était en contact avec énormément d'artistes et d'auteurs de son époque. Et effectivement, ça se retrouve forcément dans sa correspondance. Donc voilà, c'est un fonds qui nécessiterait de faire un classement pièce à pièce. Il y a eu ce qu'on appelle, là aussi, dans notre jargon, un inventaire sommaire en 1988, donc, c'est-à-dire un classement chronologique. Les premières boîtes démarrent en 1942 et ça va jusque dans les années 60, à 1960. Et avec l'archiviste, avait identifié dans chaque boîte quelques signatures et quelques courriers remarquables, soit parce que le thème était remarquable. Par exemple, on a une correspondance autour de ces projets d'adaptation du Hussard sur le toit, qui a été effectivement adapté, mais bien des années plus tard, par Rapneau. Quand il y a vraiment une signature, une grande signature, l'archiviste l'a signalé. Mais on n'a pas le détail de lettre à lettre. Dans les années 2000, quelqu'un qui avait été recruté par l'Association des Amis Jean Giono a procédé à un reclassement, sans aboutir jusqu'à la version définitive d'un instrument de recherche qui reprenait à la fois ce qu'elle avait reclassé et puis éventuellement d'aller plus loin dans les analyses du contenu des boîtes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un inventaire qui ne correspond pas forcément toujours tout à fait à la réalité du contenu des boîtes. Donc là, j'ai profité d'avoir Julie et puis Lou nous a aidé aussi pour rentrer dans chacune des boîtes. Les 38 boîtes ont été vues, ce qui a été long. On a mis plusieurs jours à plusieurs pour faire ça, pour essayer de repérer un certain nombre de documents qui vont nous être empruntés ou pour lesquels nous a demandé une numérisation dans le cadre de la future exposition qui va avoir lieu au MUCEM à l'automne prochain. Donc ça nous a permis ce qu'on appelle nous, les marquer pour que le photographe puisse les numériser. Et puis constater en fait là où éventuellement l'inventaire n'était pas du tout raccord avec la réalité du contenu des boîtes.
Est-ce que quand vous voyez les correspondances, que ce soit avec Luce Buñuel ou avec Fernandel, il peut y avoir dans ces correspondances des idées de romans? Et inversement pour Buñuel, pour ses films.
Alors Buñuel, c'est un télégramme, hein, donc c'est assez sommaire. Il dit qu'il est intéressé pour adapter Le Hussard sur le toit, en fait. Hein.
Déjà,
ouais, oui. Déjà, ouais. Ce qui ne s'est pas fait, malheureusement.
Ça aurait été un peu spécial.
Voilà, sans doute. Il en aurait fait quelque chose de buñuelesque. Mais voilà, non, donc... alors, moi, je me suis posé cette question pour une correspondance en particulier. Il a correspondu avec Jean Carrière, qui d'ailleurs a fait la biographie de Jean Genet bien des années après. Jean Carrière, quand il commence à lui écrire, c'est manifestement un tout jeune écrivain qui n'est pas encore connu. Il habite Nîmes. Et alors, en fait, c'est une correspondance d'écrivain, de futur écrivain à écrivain déjà installé. Mais Jean Carrière écrit aussi, transmet des courriers plus intimes à une compagne. Et là, vraiment, je me suis dit, c'est une espèce de mise en abîme, c'est-à-dire comme s'ils étaient eux-mêmes les héros de leur propre roman. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très étrange. Hein. Alors, le problème, c'est qu'on a les textes bruts. Hein. On n'a pas les réponses de Jean Genet, d'abord. Pour la correspondance active, je pense que c'est plutôt l'Association des Amis de Jean Genet qui conserve, eux, toute une partie du reste des archives. Donc je ne sais pas ce que Jean Genet a pu répondre à Jean Carrière, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très surprenant que Jean Carrière, comme ça, transmette. Je ne sais pas si c'est des copies, des courriers, je ne sais rien. Et on a même une lettre d'une des compagnes qui répond à Jean Carrière. C'est assez étonnant. À se demander vraiment voilà, si ce n'était pas de la matière romanesque. Hein. Mais ça, c'est des pures hypothèses. On n'en saura pas plus.
Des suppositions.
Voilà, voilà. Après, si vous voulez examiner ce type de correspondance, ça permet de dresser, je dirais, un portrait en creux d'un personnage. Hein. C'est-à-dire que, comme on n'a pas sa correspondance active, qu'on n'a pas le contexte non plus forcément, après c'est aussi le travail de l'archiviste de chercher sur quel livre il était en train de travailler à ce moment-là. Il y a par exemple, Jean Genet a fondé une société de cinéma, les films Jean Genet, puisqu'il avait vu que ses romans adaptés au cinéma avaient du succès, et il s'intéressait beaucoup à ce média, et donc il a fondé une société, il a L'eau vive, hein, évidemment, qui est le grand film qu'il a fait, Crésus. Donc c'est pour ça qu'on a une correspondance avec Fernandel, parce que Fernandel était le personnage principal. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est bien. Voilà. Donc voilà, je ne sais plus. Posez-moi une question, Jean-Marc.
Jean Genet, donc Fernandel.
Oui, le portrait en creux. Voilà, c'était ça. C'était surtout dire le portrait en creux. C'est-à-dire que... quand on est historien et qu'on examine des archives, il faut croiser les archives si on veut vraiment avoir une idée un peu précise et qui se rapproche le plus près d'une certaine vérité. Parce que simplement une correspondance passive, donc ce qu'a reçu un écrivain, finalement, vous ne pouvez pas vraiment savoir... vous savez juste, en fait, je pense que c'est un peu... ce que voulait Jean Genet en nous remettant ses archives en 1965, hein, c'est montrer les contacts qu'il avait, le statut social, le statut d'auteur et d'artiste du fait des contacts qu'il avait. Mais qui était vraiment Jean Genet? Qu'est-ce qu'il pensait? Ce petit fond-là ne peut pas nous permettre de le dire. Il faut le croiser avec le reste des archives Jean Genet et puis tout ce qu'il a produit, tout simplement.
Et pour croiser Jean Genet, il faut se lever matin.
Il faut se lever matin, voilà. C'est un grand randonneur.
Il écrivait beaucoup. Ces sources d'inspiration, est-ce que vous arrivez quand même à avoir un... Non.
Non, parce que je vous dis, c'est comme on n'a pas ces textes. Bon, après, on les connaît ces sources puisqu'il en a beaucoup parlé. Et c'est la Provence, hein. C'est la Provence, c'est la nature. Moi, il y a quelque chose qui m'a étonné et que j'ignorais, j'avoue. Bon, je connaissais l'épisode du Contadour. Hein, Jean Genet s'est retrouvé. C'est peut-être la légende qui veut ça, mais visiblement avant guerre, il randonnait avec des amis dans le Contadour. Ils se sont retrouvés bloqués par des intempéries. Ils ont été absolument émerveillés par cet endroit. Ils ont décidé d'y revenir tous les ans jusqu'à ce que la Seconde Guerre éclate. Et là, on voit, alors, C'est moi vraiment quand j'ai lu des choses là-dessus. Alors on lit rien sur le Contadour, mais on lit des courriers de gens qui ont participé à ces rencontres du Contadour et qui lui écrivent après la guerre et qui rappellent les souvenirs du Contadour. Et ils en parlent avec beaucoup d'émoi, on va dire. Et vraiment en lisant ça, je me suis dit il y avait un petit côté quand même pré-hippie, vous voyez. Ils ne portaient pas des pattes d'éléphant et ils n'avaient pas de fleurs dans les cheveux, mais je veux dire, il y avait comme ça cette idée du contact de la nature, mais qu'on retrouve dans la littérature de Jean Genoux de toute façon, hein, cette espèce d'amour de la littérature. Et alors ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'il reçoit des lettres donc dans les années, fin des années 50, début des années 60, de personnes qui s'intéressent à la biodynamie. Donc c'est déjà des préoccupations écologiques, c'est-à-dire que très tôt on a conscience que l'agriculture intensive et l'usage des pesticides n'est pas bon, et il y a des gens, on connaît Pierre Rabhi, hein, qui aussi émerge dans cette période-là, mais là moi, ça m'a vraiment étonnée, et on le contacte, voilà, j'ai le projet d'acheter 100 hectares de terre, est-ce que vous pouvez me conseiller, parce que lui aussi, Jean Genoux se présentait comme un écrivain paysan, hein. Vous savez, il avait acheté 2 fermes avant la guerre, voilà, alors c'était un paysan à sa manière, on va dire, mais voilà, oui.
Est-ce qu'avec Kerouac, ils ont pu correspondre ?
Alors, on n'a pas de lettre de Kerouac. On a essayé de retrouver, il y a une lettre de Carson McCullers dans le fond, mais on n'a pas remis la main dessus. Alors, soit on n'a pas réussi à déchiffrer la signature, il va falloir qu'on reprenne ça. Non, il n'y a pas Kerouac.
Et oui, parce que le travail de fond que vous faites, c'est pour authentifier qui écrit.
Ah bah oui, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est facile quand c'est tapé à la machine et qu'il signe en dessous, mais c'est pas toujours facile, quoi. Voilà, et d'ailleurs, je pense que Lou voudra peut-être pas en parler, mais parce qu'elle ne veut pas parler dans le micro, mais c'est vrai qu'elle a été surprise au début voilà, il faut arriver déjà à déchiffrer la graphie des gens, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a déjà comprendre ce qu'ils écrivent, et alors la signature, souvent, c'est là où les gens se lâchent, hein. Soit ils signent que par des prénoms. On a mis un certain temps avant d'identifier qui était le fameux Alain qui écrivait si souvent. En fait, c'est tout simplement Alain Aliou, hein, qui est celui avec lequel il a écrit le scénario de L'eau vive. Voilà. Donc, alors, ils signent, évidemment, comme ils se connaissent très bien, ils ne signent pas avec leur nom de famille. Voilà. Alors, bon, quelqu'un qui connaîtrait beaucoup mieux que nous le Jean Genoux et sa vie aurait sans doute immédiatement deviné que le fameux Alain était Alain Aliou. Mais c'est vrai que nous, on a abordé ça avec un regard de néophyte, hein. Moi, je ne prétends pas connaître à fond Jean Genoux et son œuvre, mais voilà, ça a été l'occasion, justement, de me plonger et surtout de découvrir un auteur qui finalement a une réelle audience, ce qui pour les gens de ma génération était un peu surprenant, parce que j'avoue que Jean Genoux, c'est un auteur qu'on étudie plus quand j'étais jeune lycéenne. Je pense que c'est un peu revenu, en tout cas dans la région, je pense qu'on l'étudie un petit peu forcément, mais c'est un auteur qu'on a quand même un petit peu oublié J'espère que les auditeurs ne vont pas bondir de leur fauteuil en m'entendant, mais voilà, c'est pas le premier auteur qu'on étudie.
Et puis en Pagnol, Giono, il y a quand même du monde, il y a Magnan aussi.
Voilà, tout à fait. Donc moi j'ai été assez surprise de voir qu'il y avait une vraie audience, il y a beaucoup de gens qui le contactent, beaucoup évidemment de jeunes auteurs en herbe qui cherchent un peu son assentiment, voire de l'aide. Et puis des lettres plus anecdotiques, mais très touchantes, de très jeunes élèves. J'en ai ramené une d'ailleurs, parce que c'est... parce qu'évidemment, c'est une élève de 3e qui écrit. Alors, je trouvais ça plutôt amusant, puisqu'aujourd'hui, nous avons 2 stagiaires, parce qu'il y a une stagiaire derrière le micro aussi, derrière la console.
Oui, il y a Flore également.
Il y a Flore qui est avec nous, on n'en a pas parlé. Donc, alors, elle écrit, cette jeune personne, des Sables d'Olonne, le 26 octobre 1961. « Monsieur, j'ai 14 ans. » Et je suis en 3e au collège des Sables d'Olonne. Mes 8 camarades et moi, qui préparent l'école normale, avons fait un commentaire au sujet d'un de vos textes, Feu en Haute-Provence. Vous trouverez peut-être ma demande importune, mais je voudrais vous demander de la part de toutes mes camarades la signification de l'expression « au tonnerre de Dieu ». Nous avons essayé d'attribuer cette expression plusieurs définitions, mais aucune ne nous convient. Vos œuvres plaisent beaucoup à toutes mes camarades et à moi-même. Excusez la liberté que j'ai prise pour vous écrire. Si vous désirez nous faire l'honneur de votre réponse, voici mon adresse, Mademoiselle Pierrette Papin. Donc elle habite rue de la Rochelle, au Sable d'Olonne, en Vendée. Agréez, monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. C'est mignon. Et donc, et c'est pas l'unique, hein. Moi, j'ai assez étonnée. Il y a énormément de très jeunes élèves qui écrivent à Jean Genoux, soit pour leur demandant de l'aide pour une dissertation qu'ils ont à faire sur son œuvre, soit des élèves, des étudiants, hein, cette fois, qui travaillent de manière plus universitaire sur son œuvre.
Et nous sommes le 17 janvier, c'est le jour de l'anniversaire de Benjamin Franklin, en plus.
Ah ben voilà. Oui, allez-y, excusez-moi.
Vous voulez passer un petit peu de musique?
Mais oui, comme ça, on va laisser le temps à Julie et peut-être à Lou de préparer ce qu'elles ont envie de dire sur leur expérience. Alors, j'ai amené un morceau d'un groupe qui s'appelle Divo. C'est un morceau tonique qui s'appelle God Feeling, parce que voilà, j'avais envie d'avoir des bonnes vibrations à la radio ce matin.
Ah oui, en plus vous étiez en direct alors.
J'avais oublié cette chute tonique du morceau. Ben, c'est bien, j'espère que tout le monde est en forme.
Donc vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui?
Non.
Vous êtes venu donc avec deux stagiaires, il y a Flore également qui est avec nous. Louis-Julie, alors, vous êtes avec Laure. Avec Laure. Oui, vous êtes avec Laure. Et Lou, qu'est-ce que vous pourriez dire, puisque vous êtes volontaire pour venir ici, de ce que vous avez fait depuis le début que vous êtes avec Laure aux archives départementales, puisqu'il y a votre papa qui écoute, paraît-il. Et oui.
Spéciale dédicace au papa de Lou.
Bien sûr.
J'ai aidé à trouver les documents pour Jean Giono.
Et vous les avez trouvés de quelle façon? Vous les cherchez vous-même ou vous les a donnés?
Non, on a pris dans les boîtes et puis on a cherché parmi les lettres en fait.
C'est un travail que vous vouliez faire?
Oui.
Donc vous êtes bien volontaire. Et est-ce que vous avez trouvé de Jean Giono? Ça vous a un peu surpris?
Ça dépend des lettres en fait. Il y en a, c'était touchant et puis il y en a d'autres, c'était... Elles se ressemblaient un peu toutes, en fait.
C'est vrai. C'est la boîte qu'elle a eue, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des sollicitations, souvent. Je sais pas sur quelle boîte tu as travaillé, quelle année en particulier, mais il suffit que ce soit sur une boîte où il est tout le temps sollicité, par exemple, pour un sujet. C'est vrai que c'est assez répétitif. Ça peut l'être.
J'ai travaillé plus ou moins sur la même chose. Je cherchais des lettres dans les boîtes avec... Madame Franek.
Voilà. Alors c'est Julie là maintenant qui parle, hein, parce que là, c'est pas présenté.
Excusez-moi, pardon. Et bon, j'étais déjà un peu familière des archives, mais plutôt publique, puisque je suis en troisième année d'histoire, donc j'ai forcément été amenée à étudier des documents d'archives. Mais j'ai trouvé ce fond, en tout cas, très intéressant, très riche et original, puisque... c'est à la fois une source pour l'historien, puisque c'est, contrairement aux archives publiques, il y a quelque chose de plus humain, puisque ce sont des vrais gens, entre guillemets, qui écrivent à Jean Giono, qui leur font part de leurs inquiétudes, de leur admiration, de leur vie, parfois même, des photos, etc. On trouve de tout. Et c'est aussi une source pour le littéraire qui s'intéresse à la vie de Jean Giono pour mieux aborder son œuvre. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et on tombe parfois sur des lettres un peu rigolotes. Et voilà, c'est plein de rebondissements.
Ce qui était bien, c'est qu'on était toutes les trois sur une grande table de marbre aux archives. Et comme on regardait les boîtes en même temps, sans qu'on faisait nos commentaires, on se montrait un peu ce qu'on trouvait. Voilà, c'était assez interactif et ça, c'est agréable de ne pas faire ça tout seul aussi, parce que des fois, on bute sur arriver à déchiffrer un terme, une signature. Voilà, donc c'est côté un peu sympathique.
Et du côté d'Angers, puisque vous êtes à Angers, Jean Giono, est-ce qu'il est connu?
Aussi étonnant que ça puisse paraître, oui, je crois, puisque j'ai discuté avec mes amis la semaine dernière, ils m'ont dit qu'ils avaient passé leur bac sur Jean Giono, du coup, ça va. Et même dans ces correspondances, on trouve beaucoup de lettres d'anglophones, d'italiens aussi, d'espagnols, ou même de... Tchécoslovaquie, du coup, ouais. À l'époque, d'Américains, etc. Donc, il avait vraiment une renommée internationale.
Oui, alors, parce qu'en plus, il a été... c'est assez amusant, d'ailleurs, on a plusieurs télégrammes d'Edmond Charleroux, hein, lorsqu'elle était directrice adjointe du Vogue américain. Et donc, Jean Giono a effectivement eu une audience assez importante aux États-Unis parce qu'il a été interviewé dans le Vogue américain et que Irving Penn est venu le photographier à Manosque. Donc ça a déclenché... Et puis, il y a son célèbre, pour le coup, ouvrage « L'homme qui plantait les arbres » qui a été adapté en version animée par un Français qui est devenu ensuite québécois, Monsieur Bach, et qui a eu une audience très importante encore aujourd'hui, hein, ne serait-ce qu'en album jeunesse, L'homme qui plantait des arbres, tout le monde le connaît, sans forcément savoir que c'est une œuvre de Jean Giono d'ailleurs.
Et aux États-Unis, donc Vogue s'intéresse à lui,
oui.
Mais du côté est-ouest, il y a des retombées?
Est-ce, c'est-à-dire
Des États-Unis, côté Pacifique ou côté Atlantique. Est-ce qu'il y a une retombée? Non.
Alors là, on ne peut pas mesurer ça, en tout cas à l'aune de la correspondance qu'il a reçue. Non, franchement, je serais incapable de vous répondre. Non, quand vous avez dit Est-Ouest, j'ai cru Bloc de l'Est.
c'était en plein.
Voilà, c'était en plein dedans. Alors effectivement, il y a un peu de correspondance, surtout des Tchécoslovaques. Je me demande s'il n'y a pas un Polonais à un moment donné. Mm. Mais bon, ça reste quand même portion congrue. Je pense que la littérature devait circuler quand même moins facilement dans le Bloc de l'Est, même si Jean Genot, a priori... Il y a eu un moment des petites sympathies communistes, hein, bien avant-guerre. Hein, il s'est très vite retiré. Voilà, donc je ne pense pas que c'était une œuvre qui était interdite dans le Bloc de l'Est, mais j'avoue que je l'ignore concrètement.
Les correspondances après 61, après le fameux, mais tristement célèbre mur de Berlin, il n'y a pas de trace de
non, du tout, non, du tout, sachant qu'il a donné sa correspondance en 1965, hein, voilà, et qu'après, on ne sait pas ce qu'il a fait ou pas dans cette correspondance avant de nous la donner. Hein, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de correspondance très intime, par exemple. Voilà, tout ça, il a gardé par devers lui. Alors, c'est peut-être... aux archives qui sont conservées à l'association, enfin à la maison Jean Genot. J'avoue que je l'ignore. Je n'ai jamais consulté le fond. Il faudrait que je le fasse un jour à la maison Jean Genot.
Mais est-ce qu'il y a des traces de correspondance pendant la guerre?
Non, je vous dis, cette période-là, le fond démarre, que je vous dise pas de bêtises, on a quelques courriers en 1940, même pas. Hein, 49, on a quelques lettres un petit peu avant, voilà, 42, 43, voilà, mais ça reste, c'est toujours sur son statut d'écrivain, en fait, c'est ça qu'il faut retenir, hein, dans ce fond-là, on n'a rien sur son idéologie, ça transparaît éventuellement, mais après tout, ce ne sont que les opinions des gens qui lui écrivent. Donc, alors on peut supposer que s'ils lui écrivent, c'est qu'ils estiment que Jean Genot a de la sympathie pour leur opinion. Mais on n'en sait rien, absolument rien. Ce serait vraiment jugé... on a par exemple une lettre de Marc Augier, hein, qui est un auteur qui a été mis sur la liste noire des écrivains pour collaboration. Alors, Marc Augier, visiblement, a fréquenté Jean Genot au moment de la période du Contadour. Il lui écrit, après-guerre, une lettre assez verte, on va dire, parce que le prix Goncourt lui échappe, en raison de, évidemment, sa figure de collaborationniste. Et alors, il est très mécontent de ça. Il s'en plaint, et il s'en plaint au moment où Jean Genot lui-même... à le Goncourt. Donc on sent que voilà, il y a un petit côté, ah, toi tu l'as eu et pas moi. Voilà, et donc la lettre, c'est deux pages où il n'est pas très content. Alors ce qui est amusant, c'est que l'année où Marc Augier n'a pas eu le Goncourt, c'est un certain Pierre Gascard, que j'avoue, j'ai un peu oublié en tant qu'auteur. Hein, ça fait partie des auteurs qui ont le Goncourt, qu'on oublie complètement des années après. Et Pierre Gascard écrit, en 57 de mémoire, à Jean Genot. Pas du tout pour se plaindre d'avoir eu le prix Goncourt, mais parce qu'il souhaite le rencontrer, puisque Jean Genot est devenu entre-temps lui aussi un Goncourt. Voilà, mais on n'a pas la réponse de Jean Genot. Donc vous voyez, il y a des gens finalement qui ont des positions très différentes, qui lui écrivent. De là à préjuger de ce que pense ou pas Jean Genot, c'est un pas que je ne franchirai pas.
Et de ce que vous avez pu trouver, est-ce qu'il y a des lettres qui ressortent plus que d'autres ?
Non, je vous dis, alors ça dépend, soit, alors je suis un peu comme Julie, c'est-à-dire soit effectivement on s'attache au prestige de certaines signatures, évidemment c'est sympa de dire...
De la teneur, hein, des courriers.
Voilà, non mais, c'est-à-dire que parfois, là, effectivement, vous avez raison de le dire, une prestigieuse signature ne veut pas forcément dire une lettre extraordinaire, alors, on veut pour preuve par exemple un simple télégramme, voilà... donc ça, c'est une première chose. Après, il y a quand même des signatures prestigieuses qui écrivent des lettres avec du contenu, vraiment sur le contenu littéraire, en fait. Et c'est un échange d'intellectuel à un autre intellectuel. Et après, moi, je dirais peut-être les lettres qui m'ont le plus touchée, c'est justement ces lettres de Kidam qui écrivent parce qu'ils sont réellement touchés par la littérature de Jean Genot. C'est un côté un peu fan, hein, voilà, le truc, voilà, je vous ai admiré, voilà, il y a Stendhal et il y a vous, enfin, voilà, c'est quand même, c'est beau, quoi. J'imagine qu'en tant qu'auteur, on doit être assez content de recevoir, en plus que Jean Genot et répondait aux gens. Hein. Bah, évidemment, comme tous ces personnes, il avait une secrétaire. Alors, il y a eu un secrétaire, d'abord l'éminent Pierre Berger, hein, qui a été secrétaire de Jean Giono après la guerre. Et puis ensuite, c'est une Pierre Berger vit sa vie à Paris. Et donc, c'est une jeune femme qui s'appelle Aline, je crois, qui ce n'est pas sa fille, hein, mais qui répond. On voit des fois, quand Jean Giono est absent, elle écrit en fait directement sur la lettre en disant « Jean Giono est absent, il ne peut pas vous répondre », mais Jean Giono répondait réellement. Ça devait être d'ailleurs un travail à temps plein, je pense. Hein, parce que je pense qu'il devait réellement répondre aux gens, puisque des fois, les gens lui écrivent à nouveau en le remerciant. Il y a aussi des gens qui lui écrivent, évidemment, pour avoir des dédicaces. Ça, c'est évident. Donc voilà, moi, les lettres qui m'ont le plus touchée, voilà, c'est ces lettres de fans. Et puis, alors là, c'est un peu plus à la périphérie, des gens qui lui demandent son aide. On a notamment une correspondance qui est extrêmement touchante d'une jeune femme à qui on a retiré son fils à la suite d'une dénonciation. Donc son fils est placé dans un foyer d'accueil par l'assistance publique. Elle écrit extrêmement bien. C'est manifestement quelqu'un qui est éduqué. Voilà. Alors on ne sait pas l'objet de la dénonciation, mais de fait, on lui retire son fils qui a 14 ans, et elle écrit vraiment très régulièrement à Jean Giono sur une période assez courte, et Jean Giono est intervenu pour elle, et visiblement, alors, elle n'a pas récupéré vraiment son fils, mais elle a le droit de la voir en vacances, et puis surtout, son fils fait des études, parce qu'elle était très inquiète, en fait, on avait placé son gamin dans une ferme pour qu'il travaille, alors qu'elle estimait que son fils pouvait faire des études, et voilà, et ça, on est en 1961, c'est... Et ça, c'est une lettre, enfin, c'est une série de courriers que j'ai trouvé vraiment très touchant, parce que manifestement, Jean Giono s'est mouillé, j'allais dire, pour elle, pour utiliser une expression un peu familière, et ça a marché, elle a pu faire en sorte que son fils suive des études et continue à voir son enfant. Voilà, donc ça, c'est des lettres assez étonnantes au milieu de toute cette correspondance plus, j'allais dire, plus intellectuelle. Ou plus... Il y a quelques courriers de remerciement aussi quand il envoie des colis de vivres à des gens et de l'argent. Hein. Donc, bah oui, c'était quelqu'un qui avait quand même des revenus, que tout le monde connaissait. Et donc, alors c'est des gens du coin en général hein, qui lui demandent de l'aide, hein. Évidemment, c'est pas. Et il répondait favorablement.
Est-ce que vous savez s'il écrivait manuscrit ou à la machine ?
Eh bien, c'est une bonne question. Je n'en sais rien. Je pense qu'il devait écrire à la main, je n'en sais rien, en fait. Voilà, c'est une bonne question. Non, il faudrait consulter le fond qu'il y a. Bon, de toute façon, on le voit bien dans les correspondances qu'il reçoit. On est dans une période mixte, hein, c'est-à-dire que les gens, à la fois, tapent à la machine et écrivent aussi à la main, ou alors commencent à la machine et mettent évidemment une formule de politesse ou une plus amicale à la main. Voilà, on est dans une période un petit peu mixte avant les SMS et les emails.
Et de tout ce que vous avez pu voir depuis que vous êtes avec Jean Giono, entre guillemets, qu'est-ce qui ressort pour vous ?
Ce qui ressort le plus ? Ben après, là, j'allais dire de manière plus conjoncturelle, Julie me faisait remarquer, il y a la raison que je n'ai pas parlé de la deuxième raison pour laquelle nous avons plongé dans le fond Jean Giono. Et je dirais que c'est peut-être ça qui va ressortir dans l'immédiat pour nous. C'est que nous, vous savez, où nous préparons une exposition pour le printemps sur l'affaire Dominici. Hein. Donc ce fameux triple meurtre qui a défrayé la chronique locale et internationale, pour laquelle donc la famille Dominici a été inquiétée. Alors on ne va pas essayer de savoir qui est coupable, qui est innocent. C'est pas le propos de l'exposition. En revanche, on va étudier le traitement médiatique et judiciaire de l'affaire. Et je reviens à Jean Giono. Jean Giono avait été convié à couvrir en fait le procès, donc il était présent au tribunal
à Digne-les-Bains,
enfin à Digne à l'époque. Et évidemment, on a cherché dans. Alors, il a écrit hein, sur l'affaire Dominici. Donc ça, évidemment, c'était quelque chose qu'on a pu utiliser pour l'exposition et le catalogue qui va être produit à cette occasion. Mais ce qu'on voulait voir, c'est s'il n'avait pas reçu des courriers au sujet de l'affaire Dominici pendant cette période. Et évidemment, oui, il en a reçu. Alors, pas énormément, mais il en a quand même reçu. Alors, il y a notamment un projet de texte écrit par Maximilien Vox. Hein, Maximilien Vox, je rappelle... frère de Théodore Monod, quand même, qui était un éminent graphiste et typographe, qui a fini par s'installer à l'URSS, justement, et on lui doit les rencontres internationales du graphisme à l'URSS. C'est un créateur de typographie, c'est vraiment quelqu'un d'important hein, dans ce milieu-là. Et il a lui aussi couvert le procès Dominici, et il a écrit un texte à cette occasion qui, à notre connaissance, n'a jamais été publié. Donc voilà, on en a trouvé dans la correspondance. Il y a deux chapitres sur trois, hein, c'est ça. Le texte est partiel. Il l'envoie en fait à Jean Giono en cours de rédaction et on n'a pas la version définitive, malheureusement. Elle se trouve peut-être ailleurs, mais pour l'instant, on n'a pas eu. Voilà, donc ce que je vais retenir, j'allais dire, pour arriver à la fin de l'émission, c'est ce côté un peu Jean Genot journaliste, mais journaliste à sa manière, hein, c'est-à-dire que pour lui, c'est l'occasion d'une étude de mœurs, c'est l'occasion d'une étude aussi de qu'est-ce que les Basses-Alpes, qu'est-ce que c'est qu'être paysan dans les Basses-Alpes dans les années 50. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'affaire Dominici a pris aussi une telle ampleur. Hein. C'est qu'en fait, on en a fait une espèce de cas d'école de à quoi ressemblaient nos provinces dans les années 50.
Et alors, 53.
Oui, oui. Et 52, l'assassinat. J'ai toujours un problème à chaque fois. 52. Et il me semble, hein, mais bon, on va vérifier. 52, il me semble. Et 53, c'est le procès, en fait.
Non, c'est 54, je crois.
Et 54 même, ouais, bien après. On va y arriver. C'est les années 50. Mais en tout cas, il y a une présentation des Basses-Alpes à travers l'affaire Dominici, avec notamment la querelle qu'il y a eu entre la presse communiste et la presse plus à droite, sur cette façon de présenter les paysans. Basalpin, en l'occurrence, comme des êtres parfaitement arriérés, parlant à peine le français. Pour ce qui est parler à peine le français, c'était pas faux d'ailleurs. Hein, ça a été l'un des problèmes de Gaston Dominici, c'est qu'il comprenait pas forcément toujours très bien les questions qu'on lui posait. Mais bon, voilà. Et ça, pour Jean Genot, évidemment, c'était une matière, un matériau littéraire extraordinaire hein, qu'il a vécu en direct. Donc voilà. On retrouvera un peu Jean Genot en filigrane au travers de l'exposition sur l'affaire Dominici.
Donc ça sera au printemps prochain.
Alors au printemps, on va l'inaugurer le 5 avril. J'annonce pas trop encore. En fait, on va publier notre programme pour février, mars, avril, là très prochainement. En revanche, le 1er février, Monsieur Labadie, directeur des archives, fait une conférence sur Vichy et les Juifs, et tout particulièrement le sort de la famille Grève. Il fait cette conférence à Villeneuve, donc ça sera le 1er février. C'est la première conférence qui va redémarrer notre programme d'action culturelle. Et après, on va enchaîner en avril sur l'affaire Dominici. Et en avant-première, je peux annoncer, parce que je suis très contente de ça, nous allons avoir Antoine Debecq qui va venir à Digne-les-Bains. Quand même, Antoine Debecq, c'est un grand historien, professeur à l'École normale supérieure, qui vient de sortir un livre sur l'histoire des crétins des Alpes. Un très beau livre, très intéressant, et qui va sortir très prochainement, au mois de mars prochain, un livre sur la transhumance. Donc deux sujets qui nous intéressent tout particulièrement, et M. Debecq a accepté de venir donner une conférence aux archives départementales, et ça sera normalement en avril. Bon, on aura l'occasion d'en reparler.
Et pas encore la date.
Normalement c'est le 18, mais j'attends sa confirmation quand même, avant de l'annoncer à tout le monde.
Eh bien, voilà. Merci Laure.
Merci.
Merci Lou. Merci Julie.
Merci Jean-Marc et merci Flore.
À bientôt.